D'après la tradition musulmane, le texte du Coran reflète la prédication du prophète Mahomet, prédication qui se déroula entre 610 et 632 de notre ère. Une prédication transmise oralement, d'où son appellation « Qur'an » liée à l'idée de récitation. À ses côtés, l'écrit est accessoire. On a pu l'utiliser occasionnellement, employant des supports de fortune, pour noter quelques versets coraniques. Mais ce n'est qu'après la mort du prophète et la mort de plusieurs de ses compagnons experts en récitation que l'on ressent réellement le besoin de disposer d'un texte en bonne et due forme. Plusieurs initiatives individuelles vont être lancées par les proches du prophète, mais il faudra attendre les années 650 pour qu'une version unique, appelée la Vulgate de Haussmann, soit imposée. Toutefois, la conception traditionnelle de la primauté de l'oral sur l'écrit perdure bien au-delà de l'histoire des premiers temps. Bien que l'on dispose désormais d'un texte écrit, son caractère archaïque, qui ne note que les consonnes, requiert encore les compétences de lecteur. Ces lecteurs, qurra, connaissent le texte coranique par cœur, qu'ils tiennent de leur maître, qui eux-mêmes le tiennent de leur maître, et ainsi de suite jusqu'au prophète. Or, ces lectures transmettent-elles la langue originelle du Coran ? D'innombrables variantes phonétiques, morphologiques ou syntaxiques les opposent. Certaines lectures introduisent même des éléments absents de la graphie, notamment l'attaque vocalique. Autant d'indices qui suggèrent que cette langue ne leur était pas familière. Définir l'idiome coranique et son rapport à l'arabe classique, en cours d'élaboration, semble bien l'une des préoccupations majeures de ces premiers savants, qu'on présente souvent à la fois comme lecteur, mais aussi comme grammairien. Résumons rapidement le problème de la langue coranique et de son rapport à l'arabe classique. À partir du 8e siècle, se forme le dogme musulman selon lequel l'arabe classique est la langue du Coran. Et que celle-ci, révélée à un membre de la tribu de Quraysh, reflète donc le dialecte employé par cette tribu. Ce dialecte est toutefois supérieur aux autres, puisqu'il est issu d'une sélection ancienne plusieurs éléments linguistiques les plus purs. Pour les chercheurs modernes, plusieurs interprétations sont proposées. La plus commune identifie la langue coranique à la koinée poétique, avec en plus quelques éléments dialectaux. C'est cette koiné qui deviendra l'arabe classique. Plus récemment, Pierre Larcher a contredit la thèse de la koiné et proposé d'identifier l'arabe classique comme une construction, une fixation d'éléments à la fois coraniques et poétiques. Une construction sur lesquelles se sont probablement greffés de nouveaux concepts linguistiques. Toutefois, les positions des uns et des autres concordent sur le fait qu'il y a eu une correction, une harmonisation de la langue coranique aux normes de l'arabe classique. En somme, les relations entre la graphie coranique et sa ou ses lectures sont ambiguës, en particulier dans les premiers siècles de l'islam. Durant cette période qui ne couvre que 4 siècles, le texte et ses lectures connaissent plusieurs étapes de standardisation qui n'ont été que partiellement conservées par la tradition. Réformes orthographiques, invention des systèmes de vocalisation, élection de 7 lectures dites canoniques, ces événements ne correspondent qu'à l'aboutissement de longues tractations qui ont été oubliées. C'est pourtant là que se définissent progressivement les rapports entre texte écrit et texte récité, et ce, en parallèle à la définition de la langue classique. Je propose ici de reprendre la question en interrogeant les témoins directs du processus de standardisation, les manuscrits du Coran. Que peuvent-ils nous apprendre sur la cohabitation entre écrit et oral ? Peut-on détecter les traces de la récitation à travers les manuscrits ? Cette récitation, enfin, conserve-t-elle les marques de correction ou d'harmonisation linguistique ? C'est vers les manuscrits de la deuxième phase de transmission, au 8e siècle, que l'on se tournera pour rencontrer des cas d'interaction entre oral et écrit, d'abord au sein même de la graphie, puis par l'ajout des systèmes vocaliques. Si l'on se fie à notre chronologie de la transmission manuscrite du Coran, le début du 8e siècle est à la fois marqué par une nette augmentation de la production manuscrite et par l'apparition de plusieurs modèles coraniques dont la forme varie d'un groupe à l'autre. Il ne s'agit pas seulement de style d'écriture ou de format, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ces variations touchent également au texte. L'examen des manuscrits datables de cette période révèle l'existence de nouvelles variantes orthographiques qui pourraient être attribuées à l'influence de la récitation. Je présenterai ici un phénomène particulièrement pertinent pour notre problématique. L'orthographe coranique présente, y compris dans les versions imprimées aujourd'hui, un caractère particulier, un caractère spécifique sur lequel les savants musulmans se sont penchés, bien souvent en essayant de le rationaliser à travers le prisme de l'arabe classique. Leur explication est logique. Si la graphie ne correspond pas aux règles de l'arabe classique, c'est qu'il s'agit d'une forme dialectale. Deux orthographes sont particulièrement concernées ici. Celle qui indique la voyelle longue A et qui l'indique par une autre lettre que l'alif, tantôt le waou, tantôt le ya. Selon toute vraisemblance, ces orthographes sont des usages anciens, hérités du sabéen ou de l'araméen, des écritures qui ne disposaient alors que de ces deux semi-consonnes, waou et ya, pour noter le son A. Pourtant, au 8e siècle, on ne les voit pas ainsi. Le grammairien Sibawayhi les identifie comme des particularités phonétiques, d'origine dialectale. En somme, on écrit ainsi parce que l'on prononce ainsi. Dans le premier cas, cas où le waou remplace l'alif, on dispose d'une liste de termes notés systématiquement ainsi, depuis les plus anciens témoins manuscrits jusqu'à l'édition actuelle. Or, dans au moins trois manuscrits datables du début du 8e siècle, j'ai rencontré le terme zakat au verset 11 de la sourate 9, noté avec un alif, alors que partout ailleurs, il est noté avec waou. Il ne s'agit donc pas, un autre manuscrit présente la même variation au même endroit, il ne s'agit donc pas d'une faute ou d'une innovation isolée de la part du copiste. Poussons le raisonnement plus loin en nous penchant sur la notation du A long au moyen de l'alif maksura, en finale des mots. Graphiquement, l'alif maksura est un ya sans point. Dans les manuscrits, le statut de cette lettre est ambigu, du moins entre les 2e et 3e siècles de l'islam. Certains copistes le ponctuent comme un véritable ya, alors que d'autres n'hésitent pas à le remplacer systématiquement par un alif dans les prépositions. Comment expliquer une telle initiative ? Il est possible que l'on souhaite simplement rétablir la prononciation du halon. En clair, l'alif maksura pouvait être lu d'une autre façon, peut-être à la façon de ces quelques lecteurs irakiens mentionnés par la tradition, avec un son intermédiaire entre A et I, et ce, à chaque fois qu'il rencontrait un ya à la place de l'alif. En définitive, l'orthographe avec waou ou avec ya conserve-t-elle la trace d'éléments dialectaux ? Les exemples de double orthographe rencontrés dans les manuscrits pourraient aller dans ce sens. Mais si notre chronologie des manuscrits est exacte, cette double orthographe ne fait pas partie de l'héritage ancestral, car dans ce cas, on les trouverait aussi dans les témoins les plus anciens. La prononciation dialectale pourrait donc dériver d'une interprétation de l'écrit et non l'inverse, comme l'entendait Sibawayhi. Quant à l'introduction de cette nouvelle orthographe avec alif, elle apparaîtrait en réaction à cette lecture dialectale répandue au début du 8e siècle. On peut donc y voir une tentative de rationaliser la prononciation du A, cette prononciation qui sera retenue par l'arabe classique. Cette démarche ne concerne d'ailleurs pas seulement la graphie coranique, mais elle concerne aussi la langue administrative des papyri du 8e siècle. Au cours du siècle suivant, la valeur du halon semble l'avoir emporté. La graphie rationalisante n'a donc plus lieu d'être, elle disparaît. L'outil le plus apte à fixer et par la même occasion à contrôler la langue coranique est certainement le système vocalique. C'est encore au 8e siècle, toujours au 8e siècle, que la tradition situe l'ajout des points voyelles dans le texte du Coran. L'ajout des points voyelles. Et sans surprise, c'est pour corriger des lectures fautives que des grammairiens lecteurs irakiens le mettent au point. Que sait-on de ces lectures fautives ? Selon les textes traditionnels, ces lectures concernent avant tout les désinences casuelles, voire peut-être, selon certaines traditions, des lectures sans flexion. Quant aux manuscrits qui reçoivent ce système vocalique, on pourrait penser qu'il ne s'agit que des copies destinées à l'apprentissage du Coran, et non des manuscrits modèles exposés publiquement. C'est du moins ce que commande le juriste de Médine, Malik ibn Anas, dans la deuxième moitié du 8e siècle. C'est en effet le cas pour ces copies gigantesques, dont la sobriété en matière textuelle, voici le texte, sobriété s'accorde avec ces prescriptions. Cependant, on rencontre nombre de manuscrits, y compris quelques-uns de dimensions imposantes, qui comportent un système de vocalisation. Impossible donc d'y voir de simples cahiers de cours. L'ajout des points voyelles a, semble-t-il, concerné une bonne partie des manuscrits avant d'être circonscrit à l'apprentissage. L'examen de ces points voyelles nous invite à appréhender les systèmes de lecture et la langue qu'ils véhiculent à travers les usages, les habitudes des lecteurs de l'époque. Nous sommes, en quelque sorte, affranchis des représentations a posteriori de la littérature traditionnelle. Que nous apprend donc la vocalisation des manuscrits de la langue coranique ? L'analyse d'une série de manuscrits datable de la première moitié du 8e siècle révèle deux informations importantes. La première concerne les lois générales de l'écriture, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les particularités linguistiques et phonétiques des lecteurs. Elle sera donc particulièrement pertinente pour notre problématique. L'autre information aborde les variations non systématiques, celles des voyelles et de la flexion casuelle. À travers ces deux analyses, la vocalisation des manuscrits reflète qu'il y a eu, d'une part, un processus d'harmonisation de formes dialectales en faveur d'une langue beaucoup plus proche de l'arabe classique. Dans le corpus étudié, on observe en effet la disparition progressive de lectures anciennes qui comportaient au moins trois caractéristiques phonétiques d'origine dialectale. Dans les lectures plus tardives, peut-être dans des manuscrits du début du IXe siècle, on retrouve encore quelques-uns de ces éléments dialectaux. Mais ils apparaissent généralement dans une autre couleur, en vert. Cette couleur qui, d'après un lecteur d'Antioche de cette époque, représente, je cite, « l'erreur, l'interprétation schismatique et enfin des éléments que personne ne lit ». D'autre part, il me semble que l'ajout des voyelles vise non pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre des lecteurs, mais plutôt à imposer une lecture recueillant l'assentiment général. En comparant les systèmes des manuscrits et les listes des variantes traditionnelles, on voit clairement que les vocalisations ne s'accordent jamais avec l'un ou avec l'autre lecteur. Évidemment, les 14 systèmes de lecture que connaît la tradition ne représentent probablement qu'une infime partie de ce qui a pu exister. Au IXe siècle, un savant en mentionne 50, dont nous n'avons plus la trace. Quoi qu'il en soit, la vocalisation des manuscrits opte systématiquement pour des lectures adoptées par la majorité et rarement pour des variantes isolées, y compris celles qui figurent aujourd'hui dans nos exemplaires imprimés. En conclusion, les manuscrits conservent en filigrane les traces de la langue coranique, telle qu'elle était récitée alors. Je garde pour la prochaine fois d'autres exemples d'éléments graphiques qui renverraient à des phénomènes oraux. notamment la scansion des versets. À travers les exemples présentés ici, on voit bien les profonds bouleversements que la langue coranique connut au 8e siècle, touchée par l'émergence d'une langue normée, l'arabe classique. Ceux qui écrivaient et vocalisaient le Coran au 8e siècle ne se contentaient pas seulement de perpétuer un héritage, ils aspiraient également à fixer et imposer une norme coranique, norme dans laquelle le respect de la graphie ancestrale pouvait être exceptionnellement dépassé par le souci de rétablir la correction linguistique. Cette norme reflétait également le souci de réunifier la communauté des lecteurs, en adoptant une lecture reconnue par le consensus doctorum. La fixation des sept lectures canoniques n'interviendra pourtant qu'au Xe siècle, avec le savant Ibn Mujahid. S'il n'explicite pas ces critères de canonicité, des savants postérieurs y ont reconnu trois conditions: le respect de la graphie et de la langue, et enfin la validité de la chaîne de transmission. Très récemment, l'étude de la transmission des lectures par Shadi Hekmat Nasser a révélé que la troisième condition d'Ibn Mujahid n'était pas la chaîne de transmission, mais bien le principe de la majorité. Dès lors, on relèvera que ces critères de canonicité, privilégiant l'accord de la communauté au détriment de la fiabilité de la transmission, ces critères s'esquissaient déjà plus d'un siècle auparavant dans le processus de normalisation supporté par ceux qui vocalisèrent les manuscrits. Je vous remercie.